Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Droits et devoirs des réfugiés, cas de réfugiés se trouvant sur le territoire congolais. Votre magazine de promotion de vos droits et devoirs en parle aujourd'hui. Vous êtes réfugié ou vous êtes en quête d'asile? Ce magazine vous fait découvrir vos droits et obligations dans le pays hôte. En effet, la loi du 16 octobre 2002 portant statut des réfugiés en République démocratique du Congo se conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole du 31 janvier 1967. Tous ces instruments juridiques traduisent la volonté de l'État congolais qui tient au respect de ses engagements internationaux et à la tradition légendaire d'accueil et d'hospitalité du peuple congolais. Ce cadre que l'on met à la portée du réfugié en RDC institue la procédure d'éligibilité au statut de réfugié. Quelle est cette procédure? Comment devient-on réfugié et pourquoi? Quels sont les droits et devoirs des réfugiés? Quelles sont les conditions d'application des clauses d'exclusion de la qualité de réfugié? Droit et citoyenneté tente de répondre à ces questionnements avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR, et la Fondation Bill Clinton pour la paix. Les responsables de la Commission nationale pour les réfugiés ont refusé de se prêter à nos préoccupations, malgré toutes les démarches effectuées auprès d'eux. Bienvenue dans votre magazine, coordonné et présenté par Jeff Ngoyi Mulonda, sous la supervision de Jean-Marc Matuaki Mofelele. ...99% des réfugiés vivent dans les zones rurales. Pour parler de ces personnes, nous recevons Martin Kabala, chargé de protection au HCR. Il nous fait l'état des lieux sur la situation des réfugiés et nous dit comment on le devient et pourquoi.
Merci beaucoup, c'est un honneur pour le HCR de venir participer à votre émission et de dire un mot sur la situation des réfugiés. Tout d'abord, pour parler de cette situation, ou si vous voulez, de l'état de lieu de la vie des réfugiés en RDC, il convient de souligner que le premier responsable des réfugiés, c'est le gouvernement congolais, parce que c'est lui qui leur donne les droits d'asile sur son territoire. Et donc, j'aimerais parler des statistiques et de la localisation des réfugiés en RDC. La population réfugiée en RDC est de 528 553 personnes au 30 novembre 2018. Et donc, 99% de ces réfugiés vivent dans des zones rurales et 74% des réfugiés sont installés hors de camps ou sites des réfugiés. Donc, il faut faire la différence entre les réfugiés urbains qu'on peut trouver ici à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Bukavu, bref, dans les grandes villes, et ceux qui vivent, qui sont le plus grand nombre, dans les milieux ruraux. Globalement, ils vivent dans les mêmes conditions socio-économiques semblables à celles des populations hôtes qui les ont accueillis. Pour être plus concret, les réfugiés qui sont dans les camps, ils bénéficient d'une assistance en ce qui concerne l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation pour les primaires. Dans le camp, vous trouvez des écoles qui sont construites. Il y a l'accès à l'eau, il y a l'hygiène qui est faite dans le camp et il y a une assistance en vivres selon la disponibilité de moyens. Et par rapport à ces points-là, il y a même une évolution qui voudrait que les besoins des réfugiés soient déterminés par eux-mêmes. On n'a pas à dire, voilà, on va leur donner du maïs alors que leurs habitudes alimentaires, c'était autre chose. Et donc, on privilégie l'assistance en cash. Comme ça, eux-mêmes, ils peuvent pourvoir à leurs besoins. Et un petit mot par rapport à la répartition selon les pays d'origine. On a 217 499 Rwandais qui sont essentiellement au nord et sud Kivu. On en trouve un nombre un peu plus réduit dans la province de Lomami et dans le Lualaba. Ensuite, on a 171 966 réfugiés centrafricains qui sont localisés à Libenge, Zongo, Badolité, Bili, Monga. Il y a aussi 95 438 Soudanais du Sud qu'on retrouve dans les Hautes-Ouélé et dans l'Ituri. Également aussi, il y a 42 309 Burundais qu'on retrouve essentiellement dans les Sud-Kivu, dans les territoires de Baraka et Uvira. Mais en dehors de cela, il y a ce qu'on appelle les demandeurs d'asile. Et à ces jours, il y en a 4834 qui attendent encore la détermination de leur statut. Et par ailleurs, il faut qu'on puisse se mettre à l'esprit qu'il existe 815 000 réfugiés congolais de la RDC qu'on retrouve dans les pays limitrophes.
Et comment on devient réfugié et pourquoi?
Voilà, on devient réfugié, comment et pourquoi? Ici, je vais faire référence à la loi portant statut des réfugiés en République démocratique du Congo. C'est la loi numéro 021/200/2002 du 16 octobre 2002 qui donne déjà la définition des réfugiés. Alors, au terme de la loi et conformément à l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complété par les protocoles du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés et à l'article 1er alinéa 1 et 2 de la Convention de l'OEA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres au problème des réfugiés en Afrique et reconnu comme réfugiés en République démocratique du Congo. Et là, il y a des réfugiés qui sont reconnus sur une base individuelle et des réfugiés qui sont reconnus globalement parce qu'ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas faire une analyse cas par cas. Et si vous permettez, je peux donner l'exemple d'un réfugié reconnu sur une base individuelle. Il vous souviendra, si vous avez lu la Bible, l'histoire de l'enfant Jésus. Quand il était né, il y avait le roi Hérode qui avait planifié de les tuer parce qu'il avait appris que c'est lui qui allait être le nouveau roi d'Israël. Et pour échapper à cela, Jésus et ses parents étaient partis
en Égypte.
Donc là, vous avez une illustration de comment et pourquoi on peut devenir réfugié. Maintenant, les réfugiés reconnus en groupe. On peut citer les cas des réfugiés centrafricains. Vous connaissez la situation qui se passe en Centrafrique depuis que l'ancien président était parti. Il y a les Seleka, les Antipalaka, il y a beaucoup de groupes armés, de sorte qu'ils se posent un problème de sécurité. Et ça, ce sont des réfugiés qui sont reconnus sur la base de la convention de l'OUA qui voudrait que les personnes qui ont fui ou qui ont peur d'être persécutées parce que l'ordre public est troublé dans une partie ou dans l'ensemble du pays, ils quittent leur territoire pour échapper à tout ce qui pourrait leur arriver comme persécution. Voilà.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et Citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30, tous les jeudis à 13h30.
Droits et Citoyenneté reçoit Monsieur Martin Kabbala, chargé de protection au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR.
Il y a une notion fondamentale de crainte fondée de persécution. Il ne s'agit pas de partir parce que, par exemple, on veut échapper à la justice. On a commis infraction et on est en train de vous appeler pour répondre. Vous quittez votre pays pour aller vous cacher.
Et les déplacés de guerre.
Les déplacés de guerre, ou si vous voulez, on les appelle dans le jargon humanitaire les déplacés internes. Ce sont des personnes qui peuvent avoir cette même crainte de persécution, mais qui ne quittent pas le territoire national.
Vous avez donné les statistiques pour tous ces réfugiés qui sont sur le territoire congolais et leur localisation. Ils vivent dans quel site? Ou bien ils sont sous-logés, ou bien ils sont logés dans des hôtels?
Bon, des hôtels, ce serait un grand luxe, parce que payer une chambre d'hôtel, c'est pas à la portée de tout le monde. Non, globalement, ce sont des gens, il y a une bonne partie qui vit dans les camps de réfugiés, et dans les camps de réfugiés, il y a des abris qui sont, c'est vraiment comme une cité, si vous arrivez là-bas, avec des avenues, et des chefs de quartier, un comité qu'on peut appeler comme un parlement qui défend les droits des réfugiés, et puis il y a une administration qui est assurée par la Commission nationale pour le réfugié, et il y a la sécurité qui est assurée par la police.
Vous avez dit que c'est le gouvernement qui est responsable de la vie des réfugiés. Quels sont leurs droits et leurs devoirs sur le territoire qui les accueille?
Alors, les droits des réfugiés, on peut déjà trouver dans l'exposé des motifs de la loi numéro 021/2002 du 16 octobre portant statut des réfugiés en RDC, qui souligne que, hormis les droits politiques, les réfugiés en République démocratique du Congo jouissent du même traitement que les nationaux en ce qui concerne l'exercice de droits sociaux, économiques et culturels. Et donc, les réfugiés ont tous les droits de l'homme que vous connaissez. Ils ont la possibilité d'accéder à l'emploi. Ils ont la possibilité d'aller à l'université. Ils ont la possibilité d'accéder à la justice dans les mêmes conditions comme les Congolais. Ce qu'ils n'ont pas, c'est les droits politiques. Ils ne peuvent pas aller voter. Ça, c'est réservé aux Congolais. Ça, c'est en ce qui concerne les droits.
Ils ont le droit aussi de se marier aux citoyens ou aux citoyennes congolaises.
Ils ont parfaitement le droit de se marier aux Congolais et même d'avoir des enfants. Et après 7 ans de mariage, comme le dit la loi sur la nationalité congolaise, les enfants, ou plutôt l'époux ou l'épouse réfugiée, peut obtenir la nationalité congolaise. C'est en application de cette loi. Alors, on parle maintenant de devoirs des réfugiés. Les réfugiés ont le devoir de respecter les lois et les règlements de la République démocratique du Congo. Il doit s'abstenir de toute action subversive qui pourrait mettre en péril l'ordre public dans le pays qu'il héberge, donc la RDC. Donc ils ont cette obligation. Autant que le Congolais respecte toutes les prescriptions du code pénal, autant les réfugiés doivent le faire. Il n'est pas au-dessus de la loi. Voilà.
Est-ce que ces réfugiés ont aussi le droit de voyager, de s'émouvoir à l'intérieur du pays?
Parfaitement, parce que le statut des réfugiés est accordé pour l'ensemble du territoire congolais.
Il bénéficie de quelques facilités pour cela?
Non. Autant que le Congolais qui voudrait quitter aujourd'hui par exemple Kinshasa pour se rendre à Lubumbashi va payer son billet d'avion, les GoPass et autres, autant les réfugiés qui veulent partir va faire la même chose. Il n'y a pas de facilité particulière.
Quand ils viennent, ils reçoivent une carte d'identité?
Effectivement. Lorsque ils sont reconnus réfugiés, après un exercice d'enregistrement qui est fait conjointement par la Commission nationale pour les réfugiés et le HR, on leur donne une carte d'identité pour réfugiés qui est valable pendant 2 ans.
Est-ce que tous ces droits sont respectés?
Globalement, ces droits sont respectés parce que la République démocratique du Congo a une longue tradition d'hospitalité vis-à-vis des réfugiés. Et ça a commencé depuis les années 60 avec les réfugiés angolais et tous les autres lorsqu'il y a eu des guerres d'indépendance. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue cette hospitalité et c'est une mention spéciale pour la République démocratique du Congo.
Droit et citoyenneté parlent des droits et devoirs des réfugiés se trouvant sur le territoire congolais. Et pour parler de ces thèmes, nous recevons Martin Kabala, chargé de protection au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Est-ce qu'ils ont aussi la possibilité ou le droit d'exercer des activités politiques, comme ils ont aussi le droit d'exercer des activités commerciales?
Donc, les réfugiés ne vont pas créer de parti politique sur les sols congolais. Pourquoi? Parce que il ne faudrait pas que, à l'occasion de l'asile qu'ils ont reçu sur les territoires congolais, que le pays dont ils sont originaires puisse interpréter cela comme des activités qui risqueraient de troubler l'ordre public chez eux. L'asile est un acte amical en application de conventions internationales.
Parce que nous assistons parfois à des déclarations politiques faites par certains réfugiés qui ont le statut de réfugiés politiques à l'étranger.
Pour maintenir le caractère civil et humanitaire de l'asile, mieux vaut éviter d'y mettre de connotations politiques qui peuvent être interprétées d'une manière ou d'une autre et qui pourraient nuire à ce caractère-là qu'il faut absolument préserver, ce caractère d'asile civil et humanitaire.
Quelle est la durée du statut d'un réfugié? On reste réfugié jusqu'à quand?
Les statuts des réfugiés et l'asile sont accordés pour une période indéterminée, mais ne restent valables que jusqu'à ce qu'un motif justifiant la fin de l'asile se présente. Et ce motif peut être le rapatriement volontaire, parce que après un certain temps, il y a des réfugiés qui estiment que, par exemple, la situation de troubles de l'ordre public qui était dans leur pays,
normale,
oui. Voilà, et donc ils se rapatrient. À ce moment-là, ils cessent d'être réfugiés. Okay. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les clauses de cessation du statut des réfugiés. Lorsque, malgré le fait de l'amélioration de la situation dans leur pays, les réfugiés restent sur le sol congolais, le pays où il se trouve peut déclarer la clause de cessation du statut des réfugiés, qui va permettre à ce que l'on fasse la promotion du rapatriement volontaire pour ceux qui vont vouloir rentrer, et pour ceux qui vont rester, ils vont bénéficier de l'exemption qui va permettre qu'ils puissent justifier pourquoi ils ne veulent pas rentrer chez eux.
Est-ce qu'il a le droit de changer sa nationalité?
Absolument, il a ce droit-là. Et lorsque d'ailleurs il acquiert une nouvelle nationalité, c'est un motif pour mettre fin à son statut de réfugié.
Maintenant, quel est l'appui que l'OHCR apporte aux réfugiés? Il est de quelle nature?
Alors, je voulais parler ici du potentiel que les réfugiés ont. Parce que lorsqu'ils viennent chez eux, ils ont vécu, ils ont dû exercer un métier. Et donc, il ne faut pas qu'on les considère comme des gens qui doivent vivre en tendant la main. Non, ils ont un potentiel. Et actuellement, au OHCR, il y a ce que nous appelons le programme d'autonomisation. Donc, par rapport à ce qu'eux ont comme projet pour devenir autonomes, ne pas dépendre de l'assistance. Il y a un appui qui est donné et à ce moment-là, ils deviennent totalement indépendants sur le plan économique.
Ils apportent quelque chose aux Congolais aussi,
oui.
Au gouvernement.
Oui.
Ils peuvent apporter la main-d'œuvre.
Absolument. Et là, je peux même illustrer des exemples. Vous savez, on avait beaucoup de réfugiés angolais, notamment dans le Katanga, vers Kisenge, qui étaient des grands producteurs agricoles. Ils produisaient le riz, les pommes de terre, des légumes. Parce que on a parfois ce réflexe de rappeler à quelqu'un qu'il est toujours étranger. Il y a eu près de 30 000 réfugiés qui étaient de ces côtés-là, qui sont partis. Et lorsqu'ils sont partis, les territoires qu'ils occupaient, c'est resté la brousse. Parce que, comme vous le savez, la nature a horreur du vide. Il y avait des bâtiments qui ont été construits là-bas, des centres sociaux, des centres de santé, des écoles même. Maintenant, si vous passez là-bas, c'est la brousse. Ce sont les chèvres qui passent par là. C'est abandonné. Il y a pas suffisamment de monde pour occuper cette infrastructure qui a été faite pour les réfugiés. Les champs qu'ils avaient, personne ne peut les cultiver. Et c'est l'économie qui a pris un coup. Donc, les réfugiés, c'est pas seulement, faut pas le voir comme un fardeau, mais il faut le prendre comme une occasion de capital humain qui peut être mis au service de l'économie.
Après Martin Kabala, nous recevons maintenant Emmanuel Kole, président de la Fondation Bill Clinton pour la paix. Selon lui, les droits et obligations des réfugiés dépendent du pays d'accueil.
Oui, en principe, les lois de réduction des problèmes de aspect des problèmes de réfugiés est activée à tout le monde. Mais ça dépend du pays d'accueil. Vous savez, chaque pays d'accueil a son politique d'accueil des réfugiés sur son territoire. Si je prends l'exemple Congo-Brazzaville, à laquelle je connais très bien, il y a une commission qui s'appelle Commission nationale pour les réfugiés, CNR. Et cette CNR, lorsque vous arrivez, les premières choses, avant qu'on vous présente au ACE, c'est cette CNR-là qui vous accueille et qui vous interroge et qui vous examine votre dossier. Après l'examination de votre dossier, il vous remet à la disposition des ACE. Et l'État, elle a un moyen d'accueil des réfugiés. Il peut vous envoyer quelque part pour aller signer le contrat, d'avoir un logement pendant un an. Payer ou ne pas payer, c'est l'État qui s'assume. On prend l'exemple du Congo-Kinshasa. L'État congolais avait créé une commission nationale pour les réfugiés, CNR. Et cette institution n'a pas un budget. Cette institution est travaillée seulement avec un peu de moyens qu'il a mis à sa disposition. Et cela ne permet pas cette institution gouvernementale d'aider les réfugiés sur son sol. C'est la raison dans laquelle vous trouvez que certains réfugiés permis et ils sont assistés par l'ACER depuis des dernières arrivées au Congo jusqu'à leur départ. Parce que l'État congolais n'a pas politique d'assistance aux réfugiés. Les États congolais, ils protègent seulement les réfugiés en leur donnant les quatre entités des réfugiés. Cette quatre entités, c'est comme les quatre lettres. C'est le permis de promener intérêt du Congo. Mais, selon la Convention de Genève, 28 juillet 1951, l'État signataire de convention, il a le droit de délivrer un titre de voyage sur la convention aux réfugiés sous les sorts. Mais, ce qui est étonnant, depuis 7 ans au Congo, les réfugiés ne peuvent pas faire les déplacements compte tenu de marque de cet document-là. Puisque, à l'époque, les documents qui étaient délivrés par l'État congolais étaient un document pas biométrique. Mais, l'État d'aviation sont dit, il ne peut pas accepter ces documents. Donc, pour vous dire que ça fait aujourd'hui plus de 7 ans, les réfugiés sur le territoire congolais, ils ne peuvent pas faire les déplacements en dehors du Congo compte tenu de manque de documents appropriés pour le voyage.
La loi portant statut des réfugiés en RDC crée la Commission nationale pour les réfugiés auprès du ministère de l'Intérieur qui, dans ses prérogatives tant classiques qu'institutionnelles, administre le territoire national sur lequel se réfugient les personnes en quête d'asile. Mais cette commission est inefficace et dépassée, selon le témoignage de la Fondation Bill Clinton pour la paix, qui suit de près la situation de ces personnes.
Vous savez, comme je viens de vous dire, cette commission nationale pour réfugiés est aisée seulement par le nom. Dita a mis sur pied cette institution, mais Dita n'a pas pensé à mettre en disposition matériel financé à leur disposition. Donc cette commission travaillait avec difficulté, puisqu'il n'a pas un budget. Donc, c'est ça que je vous avais dit ça dans le commencement, que c'est la ACER qui l'a pris pour fonctionnement. Sans ACER, cette institution ne peut pas marcher.
Et ça fait combien de temps que cette institution existe? Sous tutelle du ministère de l'Intérieur.
Oui, cette institution a été créée depuis 2002. Et c'est une commission nationale qui a été signée par, promulguée par le président de la République. Il y a le ministre de l'Intérieur qui est président, avec un vice-président sous ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères qui aussi assiste comme président intérimaire. Donc, il y a plus de 14 institutions qui font partie de la commission nationale des réfugiés. Je prends l'exemple, l'ANER, la police nationale congolaise, le ministre des Affaires sociales. Donc, beaucoup, 14 institutions qui font partie. Mais, heureusement que nous ne voyons pas les actions. Nous avons, dans les commissions nationales de réfugiés, nous avons commission qui devient, vous dire, qui fait en sorte qu'il y a 14 ministères qui constituent commission nationale pour les réfugiés. Nous avons un secrétaire permanent qui est un rapporteur. Mais, plus souvent, nous voyons seulement le secrétaire permanent qui est sur le terrain, mais on ne voit pas la commission qui est chapeautée le secrétaire permanent. C'est le secrétaire permanent qui fait tout et on ne voit pas l'action des commissions. Voilà, c'est la raison dans laquelle nous constatons que cette commission n'est pas très efficace et on sort que les réfugiés au Congo, les conditions ne sont pas bien suivies.
Est-ce que eux-mêmes, les réfugiés, sont-ils organisés dans une structure, une coalition pour faire prévaloir leurs droits?
Oui, il y avait un comité de réfugiés urbains à Kinshasa, mais ça fait cela un an qui était suspendu compte tenu du radiissement de certains permis. Et ils sont partis pour menacer un fonctionnaire de ACER et cela a poussé le secrétaire permanent de CNE à suspendre cette comité. Donc, il y avait les commissions qui existent, mais pour le moment, il n'y en a pas de commission. Maintenant, selon l'information, l'ACER travaille avec le président de comité de chaque pays. Et si je ne me trompe pas, ils sont au nombre de 14 ou bien 13 comités qui se trouvent ici à Kinshasa. Et donc, c'est cette comité-là qui maintenant ACER travaille avec eux et les CNE aussi travaillent avec cette commission-là.
Maintenant, revenons-en à un état des lieux de la situation même des réfugiés. Ils vivent dans de bonnes conditions?
Bon, vous savez, lorsque l'éditeur lui-même, il a beaucoup de problèmes pour prévenir à aider les populations congolaises, je ne croyais pas que cet état-là est capable d'aider les étrangers. Donc, pour vous dire que les réfugiés vivent dans la belle étoile, mais bon, ben, c'est un étienne. C'est là, c'est qui parfois donne ce qu'on appelle ça à Alger ou certains réfugiés pour faire un petit commerce. Le taux parfois $1,000, parfois 1,500, ça dépend. Le projet pour les réfugiés qui va intégrer en RDC. Mais pour vous dire que le problème de l'installation d'un réfugié d'un pays tiers, c'est bien une affaire taboue. Parce que beaucoup de gens, depuis les années, ils sont là. Ils sont en train d'attendre la restauration d'un pays tiers. Ils ne voyagent pas. Donc, les conditions de l'installation, et c'est un problème flou. Nous ne savons pas comment l'ACER traite ce dossier. Si vous partez au ACER, ils vous disent que non, écoutez, nous n'avons pas le pays. Donc, ce sont les pays d'accueil qui décident. Mais entre-temps, ils ne font pas de demandes. Si même une personne fait les dimanches pour avoir l'appui de ACER, l'ACER ne veut pas, parce que l'ACER ne veut pas que les réfugiés quittent le continent africain pour aller installer d'un pays tiers. Et c'est cela qui aussi parfois fait en sorte que beaucoup de réfugiés viennent vraiment brutal, menacent les agents de l'ACER ou bien critiquent beaucoup le fonctionnement de l'ACER.
Ok, Emmanuel Collet, président de la Fondation Bill Clinton, quelles recommandations pouvez-vous faire?
Bon, à mon avis, bon, si le nouveau président qui vient élu qui lui-même est beaucoup voyagé et connaît le problème des réfugiés, parce que elle était en Belgique, elle sait beaucoup le Congo d'ailleurs. Je peux dire que dans son parti, il dépasse 80% étaient exilés et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup sont en exil. Et donc, bien que les autres qui étaient au pouvoir, c'était anciens réfugiés, mais lorsqu'ils sont au pouvoir, ils ne sont pas prendre le problème des réfugiés à cœur. Mais je demande le nouveau président qui va prêter serment le 22, si c'est possible, de faire en sorte que dynamiser la Commission nationale des réfugiés, puisque cette commission existe seulement pour le nom. Nous, nous voulons que cette commission doit avoir les moyens pour son action. Nous, nous voulons que cette commission respecte son propre décret loi portant Comité national pour les réfugiés au DDC. Et je crois que les articles écrits et aucun article qui est respecté. Et nous, nous voulons que cet article premier jusqu'à dernier, il soit respecté à la loupe. Et je veux aussi que les réfugiés qui sont au Congo aussi, ils doivent être comportés en respectant les lois du Congo, en défendant les droits de l'homme. C'est le droit de l'homme, c'est une affaire de tout le monde.
Nous revenons au HCR avec le chargé de protection Martin Kabala avant de conclure. Réfugiés jouit de même droits et devoirs que la population locale, hormis les droits politiques.
Ouais.
À tout moment, il peut mettre fin à son statut lorsque les situations pour lesquelles il a quitté son pays d'origine se sont stabilisées. L'ordre est revenu, il n'y a plus de troubles. Il y a aussi une clause qui peut intervenir pour mettre fin à ce statut.
La clause de cessation.
Pour procéder à un rapatriement volontaire vers son pays d'origine. Le réfugié a aussi le droit de se naturaliser sous le territoire qu'il accueille.
Ouais.
Donc le réfugié ne doit pas être considéré comme un fardeau. Il peut aussi apporter quelque chose à l'économie nationale, contribuer au développement du pays qu'il accueille.
Oui.
En guise de conclusion.
Bon, la conclusion, c'est celle de dire c'est pas seulement des étrangers qui sont réfugiés qui viennent sur le territoire congolais. Il y a aussi des Congolais qui sont réfugiés ailleurs. Et donc, de la même façon qu'on aimerait qu'on traite les réfugiés congolais ailleurs, c'est-à-dire en leur donnant l'asile et les facilités possibles pour qu'ils puissent mener une vie qui leur fasse oublier la crainte fondée des persécutions qui les avaient amenés à fuir leur pays. De la même façon, il faudrait qu'on puisse traiter les réfugiés qui viennent trouver asile sur le sol congolais.
Ainsi prend fin Droit et citoyenneté d'aujourd'hui qui s'est penché sur les droits et devoirs des réfugiés. Merci de nous avoir suivis et de rester toujours branchés sous la fréquence de la paix.